Voilà, alors peut-être que les dames qui ont assisté à la réunion d'hier retrouveront une partie de leurs échanges, de leur méditation dans ce que nous dirons. Une vie de service pour Dieu. Voilà, c'est le thème que je vous propose d'aborder ensemble. Oh, on ne fera pas le tour de la question, on va prendre une partie, un texte biblique en particulier, pour montrer ce que Dieu attend, bien sûr, de ses enfants qu'il a sauvés. Une vie de service pour Dieu et ce que cela implique, bien sûr. Tout d'abord, un grand merci à Marc pour nous avoir ce matin entraînés à louer notre Dieu par les chants, également par la lecture de la parole de Dieu et nous avoir rappelé combien Dieu est grand, combien sa fidélité est grande, combien son amour et sa compassion sont grands pour nous. C'est lui qui nous a sauvés en Jésus-Christ et qui accomplit tous les jours des merveilles. Alors, nous pouvons lui faire totalement confiance. Eh bien, c'est ce que Josué, il y a plus de 3000 ans maintenant, lorsqu'on compte hein, les siècles, on arrive à plus de 3000 ans, c'est ce que Josué, il y a plus de 3000 ans, va solennellement rappeler au peuple d'Israël la grandeur de Dieu et ses œuvres grandes qui en découlent, bien sûr. Parce que si les œuvres de Dieu sont grandes, c'est parce que Dieu est grand, n'est-ce pas? Et qui, toutes deux, doivent conduire tout homme, toute femme, et cela est juste, bien sûr, dans une vie de service pour Dieu, pour lui. C'est la chose la plus no normale et la plus juste qui soit, dès l'instant où l'on considère que Dieu est grand et que, par conséquent, ses œuvres le sont aussi. La seule juste attitude, comportement, vie à avoir est une vie de service pour Dieu. N'est-ce pas? C'est tout naturel. En général, la seule et unique phrase que nous retenons de cet homme de foi est celle-là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La plupart connaissent cette phrase, n'est-ce pas? Prononcée il y a très longtemps, donc par cet homme de foi, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais qui d'entre nous sait précisément quand, où et dans quelles circonstances cette phrase a été prononcée? Ah, là, ça devient plus compliqué. Parce que ça, voilà, il faut que notre mémoire soit stimulée pour s'en souvenir. Ce n'est pas évident. Eh bien, j'ai donc pensé à lire avec vous le dernier discours, parce qu'il s'agit de cela. Le dernier discours de Josué qui contient cette phrase et qu'on trouve, comme vous l'avez certainement deviné, dans le dernier chapitre du livre qui porte le nom de cet homme de foi, Josué chapitre 24. Voilà, je vous invite à prendre ce texte avec moi. Mais avant d'entreprendre donc la lecture, pensons que ce sont dans ce chapitre, les exhortations d'un vieux sage que nous allons écouter. D'un homme de Dieu rempli de foi et qui a vécu aux côtés de l'Éternel des choses extraordinaires. Des expériences multiples et variées, à la fois inoubliables et marquantes pour lui et pour tout le peuple d'Israël auquel lui-même appartient. Et ça, Josué en est pleinement conscient. Alors, dans ce chapitre 24, essayons de replacer un petit peu le cadre, parce que Josué sait qu'il est à la fin de sa vie terrestre. Et il va nous donner un enseignement qui pour nous aujourd'hui est quelque chose de totalement actuel, qui n'a pris absolument aucune ride. Et conduit par l'Esprit de Dieu, donc il veut délivrer au peuple d'Israël un dernier message, donc en l'exhortant de deux manières. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder. On a peu de temps, mais on va essayer de synthétiser les choses. Il veut l'exhorter de deux manières. D'abord, l'exhorter à se souvenir de tout le chemin que le peuple d'Israël a parcouru avec Dieu, même s'il n'en était pas conscient. Il invite tout le peuple à s'en souvenir et ensuite à confirmer son attachement au Dieu Tout-Puissant et profondément miséricordieux qui a constamment manifesté sa grâce envers ce peuple. Combien de fois Josué a-t-il vu Dieu agir de manière formidable, extraordinaire. Et par ailleurs, à contrario, combien de fois également a-t-il vu aussi son peuple se détourner de Dieu? Et pourtant, comme l'a très bien dit Marc ce matin, Dieu est un Dieu fidèle qui n'a pas laissé tomber son peuple. Mais tout ça nous rappelle notre histoire, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas un peu comme le peuple d'Israël? Et c'est pourquoi il veut encourager par ce dernier message qu'il veut délivrer le plus grand nombre, et nous en faisons partie ce matin, voilà, eh bien, à affirmer ou à réaffirmer sa foi et sa fidélité au Seigneur, et en rappelant toute l'importance de faire ce choix de vie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de regarder à Dieu et de comprendre, de saisir le fait qu'il est effectivement mon Dieu, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui m'a fait miséricorde. Mais le Dieu également, qui veut que je marche dans la foi, sans péché, en toute sainteté de vie. Alors lisons ce passage. Alors, les 28 premiers versets. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous pris possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Guirgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Quel beau message de fin que Josué adresse au peuple d'Israël. Permettez-moi de m'arrêter un moment sur le premier verset. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Ce verset donne vraiment le ton à tout le passage, parce qu'il s'agit là d'une convocation solennelle. L'instant est solennel, puisque Josué, eh bien, rassemble ici, on le voit, toutes les tribus d'Israël, sans exception. Il n'en manque aucune. Parce que tout le monde doit être présent. Et c'est un peu lorsque nous nous rassemblons, nous aussi. Notre culte est un moment solennel que nous passons ensemble, nous rassembler, et nous présenter devant Dieu. Et ils se présentèrent devant Dieu. Personne ne doit manquer à ce rassemblement. Pour nous, aujourd'hui, il en est de même. Ça ressemble peut-être aussi à nos régulières assemblées générales d'église. Et là également, lorsque nous nous rassemblons pour discuter eh bien, des choses et des affaires du Seigneur, eh bien, personne ne doit manquer ce rendez-vous. En tout cas, toute personne valide et susceptible de pouvoir se déplacer doit être présent. Je ne pense pas aux malades, ni à ceux qui ne, aux personnes âgées qui ne peuvent pas être là tout le temps ou pas être là du tout. Il les convoque tous, mais remarquez, à Sichem. Oh. Alors on passe, parce que Sichem, ça ne me dit rien. Il a certainement dû choisir cette ville par hasard. À notre première lecture, peut-être est-ce l'idée que j'en ai. Mais pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, Sichem n'existe plus. Hein. Si vous prenez la carte de la Cisjordanie, qui est au nord d'Israël, eh bien vous verrez que c'est Naplouse qui a remplacé, sur les mêmes fondements de Sichem, qui a remplacé cette ville, une ville qui fait 150 ou 160 000 habitants aujourd'hui, en Cisjordanie. Mais Sichem a bel et bien existé. Je lisais encore, il y a quelques ruines qui sont là et dont on pense qu'elles viennent de cette ville de Sichem. Et comme souvent, les lieux bibliques ne nous parlent pas toujours. Ça nous échappe. Et pourtant, il est rare quand la Bible en parle de manière régulière, comme c'est le cas là, eh bien que les lieux ne soient pas chargés d'histoire, ne soient pas chargés de symboles et de vécu. Et c'est le cas de cette ville de Sichem. Et ce n'est pas pour rien que Josué rassemble tout le peuple dans cette ville de Sichem. Parce que elle est chargée d'histoire. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, eh bien, je vais à Lourdes, eh bien, tout de suite, ça va vous faire tilt. Ah, mais oui, il ne va pas simplement à Lourdes pour passer des vacances. Lourdes n'est pas simplement une ville que je vois sur la carte de France. Parce que Lourdes est une ville de rassemblement, de pèlerinage et même de prière pour les bons catholiques. Pardonnez-moi l'expression. S'agissant de Sichem, la parole nous renvoie à son sujet à trois événements forts, antérieurs, qui avait jusque-là marqué l'histoire du peuple d'Israël. J'aimerais rapidement citer ces trois événements forts. Alors, il y en a d'autres, parce que le nom Sichem, dans l'Ancien Testament, est utilisé bien des fois. C'est donc pas par hasard que Josué a convoqué tout le peuple à Sichem. Sichem, c'est d'abord l'endroit où Abraham, alors on en parle en ce moment avec Tony, c'est l'endroit où Abraham, le père de la foi, a reçu de la part de Dieu la promesse qu'il recevrait une terre et une postérité. Vous trouvez cela dans Genèse chapitre 12, versets 6 et 7. Et quand on connaît la vie d'Abraham, on voit que eh bien, cette promesse de Dieu a stimulé la foi de cet homme au point qu'il a eu une vie de service pour Dieu. Plus tard, deuxième fait, c'est à cet endroit que Jacob, qui a été transformé par la grâce de Dieu à un moment, a fait disparaître les dieux étrangers à l'intérieur même de sa famille. C'est à Sichem que ça s'est passé. À l'intérieur même de sa famille, sachant que il voulait servir Dieu, il a fait disparaître tous les dieux étrangers. Et pas seulement autour de lui, dans sa famille même. Sichem nous rappelle ça. Vous trouvez ce passage dans Genèse chapitre 35, versets 2 à 4. C'est une grande partie du message que Dieu, par l'intermédiaire de Josué, veut nous adresser dans Josué 24. nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Et puis, Sichem se situe donc à 50 km au nord de Jérusalem à vol d'oiseau, à peu près, 60 km en transport. C'est une ville qui se situe dans une vallée très étroite entre deux collines. Ébal, au nord, et Garizim, au sud. Ébal, Sichem, Garizim. Et Sichem se trouve dans une vallée étroite. Et ces deux collines, qui culminent à, respectivement à 980 mètres et 800 mètres de moins pour Garizim, toutes deux représentent deux situations dans la vie, décrites dans, vous le verrez, dans Deutéronome chapitre 11, Deutéronome chapitre 27, 28 et 30. Je vous donne ces références parce que tranquillement, vous pourrez les relire à la maison. Et elle nous parle de deux situations dans la vie que sont une vie de bénédiction que représente la colline de Garizim et une vie de malédiction que représente la ville, que représente la colline d'Ébal. Et Josué, dans ce rassemblement, donc, va inviter le peuple à considérer l'importance du choix qu'ils font. Et qui se présente donc à ce peuple, soit la vie avec Dieu, qui conduit à une vie de service pour Dieu, soit la vie sans Dieu, qui conduit à une vie de mort, de séparation avec Dieu, et même, je dirais, de malédiction éternelle. Sichem, mes amis, c'est tout cela, ça représente tout cela. Et lorsque Josué rassemble le peuple à Sichem, cela fait écho à sa mémoire. Et on va revenir un petit peu là-dessus. Et ce texte, ce verset premier, nous dit également, parce que le verset 1 n'a pas fini de nous étonner, je pense, le verset 1 se termine en disant « Et ils se présentèrent devant Dieu. » Ils se présentèrent devant Dieu. On ne vient pas simplement à Sichem pour écouter ce que va dire Josué. Josué n'est qu'un instrument, n'est qu'un serviteur du Seigneur. Ils ont conscience là qu'ils se présentent devant Dieu. Est-ce que nous sommes conscients, mes amis, frères et sœurs, lorsque nous nous rassemblons ensemble, nous nous rassemblons pas seulement pour chanter, pas seulement pour écouter la parole, et bien sûr il y a ces choses, mais surtout nous nous présentons devant Dieu et nous louons Dieu. Nous savons que Dieu est au milieu de nous. Il est en nous par son esprit. Ce sont des rassemblements solennels, finalement, n'est-ce pas, lorsque nous nous rassemblons. Nous sommes réunis en son nom, devant lui, comme Josué et le peuple étaient réunis en son nom. Cela donne un caractère encore plus solennel, peut-être, lorsque nous pensons à ces choses. Ensuite, des versets 2 à 13, peut-être que dans votre Bible, eh bien, il y a une petite séparation. Alors, dans la mienne, elle l'est, effectivement. Des versets 2 à 13 démarre une deuxième partie. Josué commence son discours en citant l'Éternel et ses œuvres. Et vous avez remarqué, en utilisant la première personne du singulier comme si Dieu lui-même parlait. C'est incroyable, c'est assez rare dans la Bible, mais ça arrive. Et là, c'est encore plus solennel de voir que c'est la première personne du singulier qui est utilisée. Et donc, ce passage est de première importance pour nous aujourd'hui, lorsque nous l'entendons, lorsque nous l'écoutons. Parce que là, on voit Dieu nous parler directement. C'est un moment important pour le peuple, là, ces versets 2 à 13. Et donc pour nous aussi, que de comprendre que la foi que Josué va l'inviter après à affirmer est en fait enracinée dans l'histoire. Que Dieu a souverainement produite en faveur de son peuple. Et on peut considérer cette histoire d'Israël au moment où ce texte a été écrit en quatre grandes étapes dans le cheminement d'Israël. Quatre grandes étapes, on va essayer de les résumer rapidement. Alors la première étape, c'est l'appel d'Abraham. On le voit dans le verset 2. La deuxième étape, c'est la sortie victorieuse d'Égypte. On le lit aussi dans les premiers versets. La troisième grande étape, c'est la victoire sur les ennemis les plus terrifiants pour Israël. Il va en parler. Et il va les délivrer de ses ennemis les plus costauds, les plus terrifiants. Et quatrième étape marquante dans l'histoire d'Israël, c'est la conquête du pays de Canaan, que Dieu va leur offrir. Et savez-vous que pour nous aujourd'hui, eh bien, l'histoire, pour ceux qui ont conscience des grâces de Dieu, l'histoire se répète pour nous, n'est-ce pas? Non? Oui. Il m'a appelé en Jésus-Christ, comme il a appelé Abraham. Et Abraham a répondu, oui Seigneur, je viens à toi. S'il nous a appelés, avons-nous répondu comme Abraham a répondu? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il m'a libéré de l'esclavage du péché, comme il a libéré le peuple d'Israël du pouvoir égyptien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je le vis aujourd'hui par la foi? Il me donne la victoire sur la chair, le monde et Satan, mes pires ennemis qui soient, qui travaillent contre Dieu, contre sa volonté. Comme il l'a fait en combattant les ennemis d'Israël pour leur donner la victoire. Est-ce que nous pouvons vivre cela par la foi? Est-ce des étapes que nous vivons dans notre vie de service pour Dieu? Et puis enfin, il m'offre, alors que je ne le mérite pas du tout, il m'offre la Canaan céleste comme héritage, co-héritier avec Christ. C'est incroyable. Et il l'a fait, il l'a permis à Israël de posséder de la même façon le pays de Canaan, qu'il ne méritait pas non plus. Mais c'est un peuple que Dieu aimait. Et en Jésus-Christ, Dieu nous aime comme la prunelle de ses yeux. Le verset 2 qui introduit le discours est un clin d'œil, bien sûr, à la grâce de Dieu. Parce que si on regarde toutes les fois où il est utilisé la première personne du pronom, la première personne du singulier, pronom « je », on a du mal à quantifier tellement il y en a. Mais j'en rappelle quelques-uns. Verset 3, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait. Je prie, je multipliais. Verset 4, je donnais. Verset 5, j'envoyais. Je frappais, j'opérais, verset 6, je fis sortir, verset 8, je vous conduisis, je les livrais, je les détruisis, verset 10, je vous délivrerai, verset 12, j'envoyais, verset 13, je vous donnais un pays. C'est Dieu qui fait. Israël n'a qu'à se laisser conduire. Dieu est vraiment celui qui domine et contrôle toutes les situations. Même celles qui font appel aux forces invisibles. La preuve en est, si vous regardez avec moi les versets 9 et 10, il s'agit, on connaît peut-être cette histoire avec Balak et Balaam. Ils en ont fait tous les deux les frais. Balaam a fini par prononcer des paroles de bénédiction alors que Balak ne le voulait pas. des paroles de bénédiction envers le peuple. Oui, Dieu est au-dessus des forces invisibles. Il les combat, il les contrôle, et il a la victoire sur elles. Dieu est au-dessus également des forces visibles. Et on le voit, il y a dans ce passage une liste de peuples au verset 11 qui on a de quoi avoir peur. Nous, petit peuple d'Israël, qui n'est pas un peuple de combattants. Et ça peut paraître inquiétant, terrifiant. Et Dieu, au verset 11 et 12, eh bien, nous précise qu'il les a tous vaincus. Et la Bible nomme ces forces visibles terrifiantes. Et alors que dans les mains de Dieu, il n'y a pas de crainte à avoir, nous pouvons aussi, nous, nommer dans notre vie ces forces visibles qui peuvent être terrifiantes, en sachant que Dieu combattra pour nous si nous plaçons notre foi en lui. Et puis, ce merveilleux résumé des versets 2 à 13, qui résume l'action de Dieu en faveur de ses enfants, nous rappelle aussi quelque chose d'important. La place importante de la prière. Regardez, verset 7. Vos pères crièrent à l'Éternel. Et s'il est vrai que notre Dieu n'est jamais dépassé par les événements, il est vraiment crucial pour nous, enfants de Dieu, de nous arrêter devant lui pour prier et prier les uns pour les autres. Et effectivement, une vie de service ne se conçoit pas, ne peut pas s'envisager sans une vie de prière. Et je vous invite, ça a été rappelé ce matin, lorsque nous avons nos rassemblements, où nous sommes ensemble pour prier le Seigneur, prier les uns pour les autres, pour le progrès de l'Évangile, comme ça a été le cas, nous sommes rassemblés hier matin. Eh bien, de penser à ces dates que nous fixons ensemble et nous rassembler en nous présentant devant Dieu pour lui adresser nos prières, nos supplications et prier aussi les uns pour les autres. Comme pour Israël, nos vies à tous sont faites de grandes étapes, c'est certain. Sachons avec son aide les repérer, les repasser dans notre cœur et dans notre mémoire également, en pensant à toutes les grâces quotidiennes dont nous sommes l'objet les uns les autres de la part du Seigneur. Et ça aura quel effet ? Comme l'effet qui a été produit chez Abraham. C'est ainsi que notre foi sera stimulée et conduite vers une vie de service pour Dieu qui le glorifie. Après ce rappel de l'histoire des versets 2 à 13, eh bien, il y a ce passage des versets 14 à 28 et qui va les placer devant le défi de la fidélité et également de la persévérance. On n'est pas seulement là pour écouter de beaux récits de la parole de Dieu ou pour essayer de nous rafraîchir la mémoire sur les étapes de notre vie. Mais après les faits et les événements que Josué a rappelés et qui ont été l'œuvre du Seigneur, Josué exhorte le peuple maintenant à adopter une juste attitude et de faire le seul bon choix qui soit. Bien sûr, sans le leur imposer, mais il leur demande de choisir maintenant qui ils veulent servir. Soit Dieu, soit de faux dieux. Et pour cela, il est nécessaire de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est ce que le verset 14 va nous rappeler. J'aimerais le relire. Maintenant. C'est pas demain, frères et sœurs. C'est pas après-demain, c'est pas dans une semaine. c'est maintenant. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Dans le chapitre précédent, le verset 23, le chapitre 23, verset 8, il nous est dit « Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. » Et je dois dire que c'est ce qui reflète dans les versets qui suivent, qu'il ne suffit pas toujours d'avoir de bonnes intentions, de dire « Oui Seigneur, je veux te servir », comme ça a été le cas d'Israël. Il a répondu en fait à l'affirmation de Josué lorsqu'il a dit « Moi et ma maison, je servirai l'Éternel ». Et le peuple a dit « Ah bien moi aussi, je servirai l'Éternel ». Oh 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 oh, t'es sûr? Tu as mis de l'ordre dans ta vie? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour effectivement avoir une vie de service pour Dieu qui le glorifie? Et on peut avoir de bonnes intentions, mais attention, il y a trois réalités qui sont aussi la nôtre. Notre faiblesse naturelle, la force de nos ennemis et les saintes exigences de Dieu. Seule la puissance du Saint-Esprit en nous, travaillant en nous, dans nos cœurs, pourra nous donner la victoire sur ces choses, nous libérer des dieux que nous avons encore dans nos bagages et qu'on pourrait appeler, alors ce ne sont pas les dieux de l'époque, mais nos dieux à nous aujourd'hui, qui desservent notre vie de service pour Dieu. Et c'est dans les ressources de la grâce de Dieu mises à notre disposition que, effectivement, nous pourrons être victorieux dans notre vie de foi et de marche avec le Seigneur. Josué, c'est vrai, termine là sa course, ayant dans le désert marché par la foi et combattu le bon combat de la foi. En s'appuyant, comme l'a rappelé Marc tout à l'heure, sur le livre de la loi, qu'il avait constamment sur le cœur. Est-ce que vous voulez être ce serviteur-là que Josué a été, qui a une vie de service pour Dieu, serviteur de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Alors, si c'est oui, j'aimerais rappeler les conditions pour, ça sera la conclusion, les conditions que nous enseigne ce texte. Et vous pourrez le relire ce texte à la maison tranquillement pour aller dans plus de détails. Premièrement, c'est connaître personnellement ce lieu de Sichem. C'est là où Jésus-Christ met devant mes yeux ses œuvres rédemptrices, son appel, ses promesses, ses bénédictions, et donc me place aussi devant un choix. Maintenant, nous dit le verset 14, crains l'Éternel et sers-le avec intégrité et fidélité. Ça, c'est le bon choix de la foi qui procure la vie. C'est ça, Sichem, c'est connaître Christ de cette façon. Si vous voulez être serviteur de Dieu, il vous faut aussi constamment vous souvenir de tout le chemin parcouru, comme le peuple d'Israël. Car rappelez-vous que la foi s'enracine dans l'histoire, dans celle de votre vie, qui est personnelle, qui est particulière, contrôlée par le Dieu souverain, et dans les grâces quotidiennes dont vous êtes l'objet. Si vous voulez être serviteur de Dieu, il est aussi nécessaire de vous débarrasser des dieux étrangers qui embarrassent votre vie, car la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Alors, c'est confesser ses péchés à Dieu et s'approprier sa grâce pour une marche par la foi victorieuse. Si vous voulez être serviteur de Dieu, et vivre une vie de service pour Dieu, il est nécessaire, comme l'a fait le peuple d'Israël, d'exprimer publiquement son engagement personnel. Que la marque du baptême vous rappellera semaine après semaine, mois après mois, année après année. Un serviteur de Dieu, est-il besoin de le préciser de nouveau, sert aussi tous les jours dans son cœur la parole de Dieu. Et n'oublie pas de la méditer, tout en consacrant du temps à la prière. C'est ainsi que j'aurai, selon ce que m'enseigne la Bible, une vie de service pour Dieu et une vie de service aussi pour les autres à la gloire de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur, ce matin, nous ouvre les yeux sur sa grandeur, sur ses œuvres, sur mon besoin. Nous ouvre notre cœur pour répondre à son appel, peut-être pour l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous ce matin, qui n'a pas encore franchi cette étape de saisir Christ par la foi. Et puis, pour nous, enfants de Dieu, que cela nous pousse à renouveler avec sincérité notre engagement à le suivre et lui être fidèle et le servir. Prenons pour finir Colossiens chapitre 3 et puis nous chanterons un dernier cantique. Colossiens chapitre 3. Versets 22 à 24. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Voilà un appel de la part de l'apôtre Paul à servir Christ le Seigneur de tout notre cœur avec sincérité, fidélité et intégrité. Et vous pouvez dire dans votre cœur à cet instant même, comme je le dis à haute voix, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Oui, Père Céleste, comme tu as réuni ton peuple à Sichem, tu nous as aussi réunis ce matin pour entendre ta parole et savoir ce que tu veux pour chacune de nos vies. Josué a répondu, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mais il a demandé au peuple de se séparer de ses dieux, de s'attacher maintenant à l'Éternel. C'est pour nous la même exhortation. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions compter sur ta grâce pour le faire jour après jour et être entièrement agréable jusqu'à ton retour. Nos cœurs sont devant toi, nos pensées aussi. Nous te prions que tu fasses ton œuvre et que nous considérons avec sérieux cette exhortation qui est pour nous aussi ce matin. Conduis chacun dans sa demeure, donne-nous de méditer ces choses, d'avoir un temps dans la parole, dans la prière pour entendre ta voix et nous appuyer sur ta fidélité, ta puissance et la suffisance de ta grâce. Que ton nom soit béni. En Jésus-Christ. Amen.